Les orchistes négligés du radio.
Ouais, en fait, ce qu'on a commencé à dire, c'est que, sachant que le loyer, il n'arrêtait pas déjà à l'époque d'augmenter, et il fallait trouver des solutions. Et donc, on a commencé, c'est là qu'on commence à, à répondre à des appels à candidature pour faire des projets, tant collectifs comme, pour le lieu. Depuis 4 ans, je pense que c'est depuis 4 ans, 3 ans et demi ou 3 ans, enfin, pardon, mais du coup, on reçoit une subvention de la région. Et donc, c'est cette subvention qui nous permet aussi plus de soutenir tous les projets, toute la programmation de W. Mais auparavant, c'était chacun d'entre nous qui mettait un peu de l'argent pour le vernissage de l'expo. Enfin, si cet argent il existe pour baisser le loyer des artistes qui travaillent dans nos espaces, et puis aussi pour soutenir les expositions et les événements qui ont lieu dans notre espace, enfin dans notre lieu, c'est aussi grâce à notre énergie. Tu reçois une subvention d'un X montant. Quelle est la quantité de travail que chacun fournit ? Il y a des tâches qui sont des tâches qui sont plus quantifiables, mais qu'est-ce que tu fais quand tu parles de la recherche, par exemple ? Il y avait des moments où on s'est retrouvés en tant que collectif à avoir des séminaires de co-recherche et des réunions. Et moi, je trouvais que c'était normal de payer des personnes qui ne pouvaient pas être là, puisqu'en fait, elles sont pas là juste parce qu'elles ont leur bébé, ouais, qu'elles sont à 2 jours, 3 jours d'accoucher. Donc en fait, pour moi, c'est aussi une manière de penser, de penser le monde. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont en construction. Hein. Je dis pas qu'on est exemplaire sur tout et qu'on arrive à trouver des solutions pour tout et que, qu'on arrive à avoir un système qui est juste. Parce que par exemple, pour moi, c'est assez dur de comprendre que on a eu une subvention pour faire un projet avec la DRAC, là, l'été culturel, que vous venez de voir juste dans notre lieu, dans l'espace du bas. Ça nous a permis de rémunérer chacun des artistes mieux que les expositions qu'on fait d'habitude à W. Mais en fait, moi, j'ai envie de pouvoir rémunérer comme ça les artistes tout le temps, en fait. Pas juste une fois par an.
La question économique, parce que W travaille de manière un peu théorique sur la rémunération des artistes et des acteurs du monde de l'art en général depuis longtemps. Et le financement de la DRAC, c'était aussi un moyen de passer à la pratique. Enfin, ils avaient déjà fait des choses dans ce sens, mais là, on voulait payer tout le monde, etc. Ce qui veut dire concrètement que, par exemple, quand tu manques d'argent, tu enlèves quelque chose. Tu dis pas à l'artiste, lui, il est toujours content d'exposer. Donc, non, on enlève le truc.
J'ai envie de ça, mais j'ai à côté envie de pouvoir rémunérer les artistes le mieux possible, de la même manière que moi, en tant qu'artiste, j'aimerais être aussi rémunérée pour le travail des fois que je fais. Donc c'est, mais je sens que, je crois qu'en fait aussi pour en bénéficier à titre personnel, entre parenthèses, je pense qu'il faut, il faut une force collective en fait. Folks, I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there. She's dressed out all along my table. She's so sweet, so cold, so fair. Let her go, oh bless her. Wherever she may be, we'll search this wide world over, but you never find another sweet man like me. Now when I die, baby, in my straight leg breeches, put on a box back coat and a studs in a hat, put a $20 gold piece on my watch chain so you can let all the boys know I died.
standing pass. Then give me six crap shooting Paul Bearers. Let a chorus girl sing me a song. Put a red hot jazz band at the top man so we can raise hallelujah as we go along. Folks, now that you have heard my story, say boy, hand me over another shot of that booze. If anyone should ask you, tell them I got those St. James in very blue.
On est parti en fait d'un texte d'un artiste qui s'appelle Mike Kelly, qui est décédé il y a 10 ans, qui s'appelle L'immonde perfection, réflexion sur la caricature, enfin c'est une traduction, et en fait qui réfléchit à la question de la caricature en mettant en évidence plusieurs thématiques qui sont sous-jacentes dans la pratique de la caricature, mais qui développe en réalité sur toute une critique de la culture, surtout aux États-Unis parce qu'il est américain, et du coup qui peuvent, pour donner des exemples, qui peuvent aller de le thème de la déformation, le lien qu'il peut y avoir avec la pulsion agressive dans la déformation physionomique d'un visage, par exemple, qui peut être le grotesque. Et enfin voilà, et donc il y a énormément de veines en fait qui sont tirées dans ce texte. Donc ce qu'on a décidé en fait, c'est de juste de partir de ce texte, de le considérer comme une sorte de prisme de réflexion, et de choisir, surtout dans des artistes jeunes et d'Île-de-France pour des questions de coût et de rapidité, une sorte d'échantillon de travaux qui nous paraissait lié à des thèmes du coup qui sont évoqués dans ce texte. Un des trucs évidents dans le texte de Mike Kelly, c'est que il y a un rapport à la vitesse. Dans l'opposition que je disais tout à l'heure, idéalisation et grotesque, on va dire, la vitesse est plutôt du côté de la caricature et du grotesque, la rapidité d'exécution. Et le travail lent et abouti du côté de l'académie. L'expo est organisée autour d'une très très grande table au milieu de l'espace qui parodie une sorte de colloque qui a deux utilités, une utilité pratique qui est de faire des ateliers, des rencontres, etc. Mais aussi une dimension quasiment symbolique qui est de suggérer une dimension de dialogue au sein de l'exposition, en fait. C'était un atelier, cet après-midi, c'était un atelier avec des enfants du quartier. Et on a fait, en gros, un atelier de dessin. On a donné deux, trois exercices assez simples comme prétexte. C'était, on avait préparé un ensemble de tâches un peu aléatoire qu'on avait fait comme ça à l'encre, et on demandait aux enfants s'ils voulaient de réutiliser la tâche et notamment son contour pour éventuellement dessiner un visage en fonction, c'est-à-dire avec des dissymétries et donc forcément des sortes de déformations induites. Et le deuxième, ça c'est un exercice dont parle Mike Kelly dans son texte. Et donc voilà, le deuxième exercice qu'on a donné tout simple aux enfants, c'était de leur proposer de dessiner des œuvres de l'exposition pour avoir un décalage formel et de vision évident avec des œuvres. Voilà.
Mais même aussi, ce qui m'a frappé, c'est la porte ouverte en bas. Exactement. Ce qui n'est pas courant dans tous les ateliers, les run space, quoi. C'est cette ouverture aussi sur la rue et sur les habitants du quartier. En fait, et moi j'aimerais savoir un peu comment vous vous positionnez là-dessus. Sur, je sais qu'il y a aussi des ateliers que vous organisez avec des enfants.
Ça fait partie aussi de faire des ateliers, de faire de la médiation. Je dis pas que, alors par là, je veux pas dire que tout l'artiste doit être un médiateur ou doit vouloir avoir, je sais pas, faire des ateliers avec pour des jeunes. Je trouve que, enfin. Cet artiste-là, que du coup aujourd'hui a des multitâches, enfin, c'est assez gênant et assez. Enfin, je veux dire, moi, pour moi, ça a du sens, mais je comprends que ça n'a pas du sens pour d'autres gens. Mais en tout cas, ça a du sens pour W. Et donc, on fait plein d'ateliers. Puis les habitants, ils sont. Ouais, la porte, elle est ouverte. certains d'entre eux, ils ont déjà même intégré des œuvres qui ont eu lieu dans notre espace, c'est-à-dire par exemple avec le collectif Soleil Gras qui a fait un événement il y a au mois d'avril. Ils sont restés dans l'espace, donc ils ont vécu dans l'espace, donc c'est-à-dire vraiment dormir dans l'espace pendant 4-5 jours. Et après, ils ont fait un film à la fin, donc ils ont fait un montage de ce qui s'était passé dans le lieu. Il y a plusieurs voisins qui apparaissent dans le film, donc ouais, ça, pour nous, ça fait partie, quoi. Ouais.
Quand on répond à un appel à projet avec des fonds publics, on doit essayer d'évaluer les publics qui passent, etc. Il y a un truc qu'on compte pas, c'est tout simplement les gens qui passent dans la rue, qui rentrent pas dans l'espace. Parce qu'il faut expliquer qu'il y a vraiment qu'une salle dans l'exposition qui se voit quasiment entièrement de la rue, quasiment. Et en fait, la plupart des gens passent, s'arrêtent peut-être 3 secondes et s'en vont. Ils sont pas comptés comme des visiteurs pour nous, mais en réalité, il y a des œuvres parmi les œuvres exposées qui sont tellement impactantes du fait de la thématique qu'elles peuvent s'apprécier en une seconde, moi, je pense.
Il y a cette question d'artothèque aussi, de, du coup, d'une certaine manière, prendre les œuvres et les mettre chez soi.
Ouais.
Ça permet aussi ce passage-là, justement, avec les voisins, je me dis.
Après, on n'a jamais fait le projet à Fintin. Donc, c'est d'ailleurs une des difficultés qu'on a senties. Alors, on a fait ce projet au début parce qu'on a passé un appel à candidature avec la Maison des Arts de Malakoff. On l'a fait à la Supérette. Donc, on était en résidence de juillet jusqu'en janvier-février. Donc, c'était 2020-2021. Et donc, plein Covid. Donc, il y a un moment, du coup, le projet doit s'arrêter parce qu'en fait, on ferme tous les centres d'art, etc. En fait, là, avec nos voisins, ça aurait été vachement plus simple parce que la relation, elle est installée d'une certaine manière. Et je ne veux pas dire que, du coup, ça n'a pas fonctionné tant à Malakoff comme à Genevier parce qu'on a fait un deuxième volet à Genevier. Mais il faut du temps, en fait. Des fois, les gens, ils viennent juste aussi pour en discuter, pour voir les œuvres, pas forcément pour les ramener chez eux, parce qu'ils ont aussi peur, en fait, d'avoir un objet comme celui-là chez eux. Après, pour nous, c'était une artothèque expérimentale. Ça nous a permis de réfléchir aussi à plein de choses sur notre pratique, à partir du moment que, du coup, il y a quelqu'un qui emprunte tes œuvres et que, du coup, ça a peut-être des changements sur tes objets, ça a quand même un impact sur ta pratique, et puis c'est aussi économique. Il y a ton espace de stockage qui se libère, donc il y a des tas de questions qu'on a soulevées, que c'était des questions liées à la collection, à l'exposition, et aussi à des questions économiques. Seul espace où il y a des ateliers. Oui, sachant que du coup l'espace que vous avez vu juste en bas, quand il n'y a pas d'exposition, quand il n'y a pas d'événement, les artistes ils peuvent aussi travailler dans cet espace-là. Au début, en fait, leur logique c'était ok, l'espace du bas ça sera plutôt un espace sculpture, et puis en haut plutôt un espace de peinture. Sauf que petit à petit ils ont commencé à comprendre la nécessité que les artistes ils avaient besoin d'exposer, et donc ils ont décidé de repenser l'espace autrement, c'est-à-dire que tout le monde travaille en haut. Et en fait, les murs, ils étaient très différents. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas de mur. Il n'y avait même pas ces murs-là qui divisent un petit peu juste l'espace. Et donc, c'était des artistes qui avaient l'habitude de travailler aussi ensemble dans mon espace de travail. Et donc, ils n'avaient pas besoin de... Enfin, c'est-à-dire que, du coup, ils avaient vraiment besoin plus de se côtoyer. Ils avaient l'habitude de travailler ensemble dans le même espace sans avoir besoin de mettre des cloisons. Donc voilà, ils étaient ensemble surtout à l'école des Beaux-Arts de Paris. Alors, le collectif, au départ, il n'existe pas. Le collectif, il apparaît environ... en fait, je pense qu'on a commencé à employer vraiment le mot collectif plutôt en 2018. C'est-à-dire qu'il y avait des projets déjà qui prenaient forme, organisaient des expos, etc. C'était les membres du bureau qui, à l'époque, oui, on pourrait faire correspondre d'une certaine manière donc le bureau... Au collectif, c'est pas forcément les cas, enfin exactement comme ça aujourd'hui. Et petit à petit, en fait, avec les changements, c'est-à-dire que du coup, il y a des gens qui, au fur et à mesure, ont commencé à partir, certains tout en restant au sein du bureau. Ils sont encore aujourd'hui, et puis d'autres sont partis puisque ça faisait pas vraiment du sens pour eux de s'engager aussi à leur énergie dans un lieu. Donc petit à petit, les membres, ils travaillent, mais ils sont pas dans le lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, membre du bureau, il y a Judith Espinasse qui vit à Bruxelles. Moi, je vis sur Paris. Il y a Laure Waters qui vit, elle vit aussi dans une région parisienne. Il y a Céline Noto qui habite en ce moment à Marseille, mais qui va déménager à Besançon. Et il y a Émilie Jarret qui habite à Rennes. De toute façon, je ne sais pas si vous avez compris, mais tous les gens, ils sont partis et ils reviennent quand même. Hein. Enfin, je veux dire, ils donnent leur énergie dans des lieux qui n'ont plus rien à voir avec le territoire de Pantin. Donc en fait, c'est sûr qu'il y a cette volonté de garder le lieu et de continuer, etc. En 2009, plusieurs artistes sortent d'école des Beaux-Arts. Moi, je viens d'intégrer en tant qu'étudiante en échange. Donc, en fait, on s'est croisés seulement. Et donc, ils ouvrent un lieu à Pantin, puisque je pense que ça les intéressait plus d'être en banlieue parisienne, déjà à l'époque. Et puis, de toute façon, les loyers, ils étaient déjà beaucoup très chers à l'époque sur Paris. C'était en 2010, je crois, 2011, je suis venue avec un ami voir une exposition. Puis petit à petit, je pense qu'à partir de 2013-2014, ils commencent à faire des propositions, des expositions qui sont pensées collectivement.
De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour continuer?
Des bénévoles.
Ou le futur.
Des bénévoles.
Des bénévoles.
Ouais.
Des bénévoles pour
soit,
faire quoi ?
Soit des bénévoles, soit, comment j'adhère, à, d'avoir un poste. Je veux dire d'avoir quelqu'un qui peut gérer, qui peut être dans le lieu et peut être payé.
Les orchis négligés du radio.